Recoins de la Bible, un podcast pour nous immerger dans les Écritures. Aujourd'hui, nous allons nous pencher quelque peu sur le fait que le Seigneur Jésus est le chef, ou autrement dit, la tête de l'Assemblée. Bonjour Étienne.
Bonjour Hervé. On va commencer par la lecture de deux passages, en prenant vraiment ce qui concerne ce sujet, en Éphésiens, au chapitre 2, Épître aux Éphésiens, chapitre 1, et au verset 22, « Dieu l'a donné pour être chef sur toute chose à l'Assemblée qui est son corps. » Et ensuite, nous allons aller dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er, et au verset 18, il est le chef du corps de l'Assemblée. Alors on reviendra sur le contexte de chacun de ces versets dans la présentation.
Alors il est question ici dans le texte que nous avons lu dans notre version de la Bible, version Darby, il est question du chef de l'Assemblée, du corps, du chef du corps de l'Assemblée. Ça veut dire la tête également. Donc il est la tête, on pourrait dire cela, puisque dans le texte original en grec, il est dit « il est la tête du corps », donc Christ est la tête du corps de l'Assemblée.
Oui, donc dans notre langage, on fait souvent une différence entre être le chef et être la tête. Mais la parole nous montre que, et nous allons le voir dans le développement, que ça englobe bien plus de choses dans la personne du Seigneur Jésus que ce que l'on peut penser de prime abord en lisant simplement la Bible.
Et la parole de Dieu utilise des images qui sont à notre portée également pour que nous puissions saisir des choses très importantes que Dieu veut nous communiquer. Et donc la tête, eh bien, il y a quelques aspects vraiment importants à comprendre quant à la tête d'un corps. Alors, quels sont ces aspects de manière générale qui sont très importants à comprendre? Premièrement, bien, c'est que la tête, elle est connectée au corps. Il y a un lien absolument vital entre la tête et le corps. Et comme il y a un lien vital entre Christ et l'Assemblée, son Assemblée.
On peut lire simplement dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, une expression du verset 17. Le corps est du Christ. Voilà, donc cette expression que nous avons lue, où on a parlé, il est le chef sur toute chose à l'Assemblée qui est son corps, eh bien, ici, est bien renforcée par cette expression, le corps est du Christ.
Donc le corps vient après la tête, et le corps de Christ procède de la tête qui est Christ lui-même. C'est-à-dire que sans la tête, il n'y a pas le corps. Mais le corps a été constitué sur base de l'œuvre de Christ à la croix. C'est ce que nous voyons en Colossiens 1, nous avons lu le verset 18, « Il est le chef du corps de l'Assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts. » Afin qu'en toute chose, il tienne lui la première place. Le fait qu'il est le premier-né d'entre les morts fait de lui la tête du corps. Et le corps existe parce que, après son œuvre à la croix, en œuvre de grâce, eh bien, le Seigneur est mort, mais il est ressuscité. Et en tant que fils de l'homme ressuscité, eh bien, il est la tête du corps. Donc il y a ce lien vital et absolument incontournable entre la tête, Christ, et le corps, son assemblée. Être la tête, ça veut aussi dire que c'est lui qui dirige tout le corps. C'est la tête qui dirige le corps. Comme dans un corps humain, la tête prend les décisions et le corps se met en mouvement et en action en fonction de ce que la tête a décidé. C'est lui qui dirige.
Et donc cette expression du corps de Christ donne une image particulière de l'assemblée, c'est l'assemblée qui fonctionne à chaque moment depuis la mort du Seigneur Jésus, sa résurrection et la descente du Saint-Esprit qui a fait commencer cette assemblée. Et donc, à travers les siècles qui se sont écoulés, l'assemblée a fonctionné. C'est le corps, justement, agit en fonction de ce que la tête donne comme direction. Donc c'est un corps vivant.
C'est un corps vivant puisqu'il est, il est lié directement à la tête. Christ ressuscité, celui qui est vivant au siècle des siècles. Et Christ est maintenant la tête glorifiée dans le ciel, et le corps, formé de tous les rachetés membres donc de son propre et unique corps, sont sur la terre. Et donc, le corps est la façon dont Christ agit aujourd'hui concrètement sur la terre.
On peut continuer à lire encore un passage pour bien expliquer cela dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Il est parlé au verset 12, justement, cette comparaison avec le corps humain, et tout le reste du chapitre va en parler. Car de même que le corps est un, le corps d'une personne, et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps. Tout le monde peut comprendre cette image de la parole de Dieu, et ce verset continue en disant « Ainsi aussi est le Christ ». Et ensuite, la parole nous parle des pieds, des mains, de l'œil, voilà. On parle de tous ces membres du corps qui fonctionnent chacun de façon dirigée par la tête.
Et donc le corps va travailler sur la terre dans la dépendance de la tête, qui est Christ, et donc va accomplir les œuvres que Christ va dicter à chacun des membres dans la pleine harmonie pour la gloire de Christ. Je dis bien pour la gloire de Christ, et un membre qui travaille, eh bien, il ne travaille pas pour sa propre gloire. Et en tant que tête du corps, en tant que tête de l'assemblée, eh bien, c'est Christ qui doit recevoir toute la gloire, c'est à lui qu'elle revient. Et les actions que nous pouvons, nous, en tant que membres du corps, accomplir, eh bien, c'est pour la gloire de Christ. C'est pour l'honneur et la gloire de la tête. On peut en lire quelque chose dans l'Épître aux Hébreux, par exemple. Hébreux, chapitre 13, au verset 21. « Vous rendre accompli en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable devant lui, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Donc la volonté, c'est la sienne. C'est celle qui vient de la tête, celle qui vient d'en haut. Et puis c'est nous qui agissons sur la terre pour lui être agréable et pour que la gloire revienne à lui. Un autre aspect général qui se rapporte à la tête, c'est que c'est la tête qui prend soin du corps. C'est la tête qui prend les décisions pour le bien du corps tout entier.
Il prend soin, et là aussi nous sommes dans des expressions qui nous montrent vraiment le travail que le Seigneur Jésus accomplit, et même plus ce qu'il donne, ce qu'il apporte à chacun de ses membres, mais aussi à l'Assemblée vue dans son ensemble. Donc nous lisons en Éphésiens 5, au verset 29. Alors c'est de nouveau une comparaison par rapport à un couple, mari et femme. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ l'assemblée, car nous sommes membres de son corps. Donc voilà le Seigneur qui nourrit et qui chérit l'assemblée.
C'est vrai que dans un corps même physique, eh bien, la nourriture passe par la tête. C'est par la bouche que l'on reçoit dans le corps tout entier la nourriture pour le bien de tous les membres du corps. Alors comment le Seigneur Jésus en tant que tête nourrit-il son assemblée ?
Il y a ce que nous avons entre nos mains, la parole de Dieu, qui nous donne justement toute la pensée et toutes les explications que nous pouvons comprendre.
Oui, la parole de Dieu, qui le Seigneur Jésus lui-même est la parole de Dieu et il est ce pain de vie. Donc le Seigneur Jésus est celui qui nourrit son assemblée, et on pourrait dire de lui-même encore, à propos de lui-même. Cette bonne nourriture spirituelle qui est la connaissance de sa personne.
Et donc c'est une nourriture qui est totalement adaptée aux besoins du corps. Chacun reçoit, chaque partie du corps reçoit ce dont elle a besoin pour fonctionner correctement. C'est une bonne nourriture.
Oui, c'est Christ lui-même. Et le corps tout entier est uni à Christ. Et il faut bien se rendre compte que en tant que membre du corps, il s'agit du nouvel homme qui se trouve en nous, qui est en action. Et ce nouvel homme que nous avons reçu par la foi, par la grâce, eh bien, il reçoit cette nourriture pour être fortifié et faire exactement ce que la tête désire.
Mais alors, il y a l'expression aussi « il la chérit ». Alors là, on sent vraiment cette relation intime, parce que bon, nous voyons le Seigneur Jésus dans le ciel et on peut dire, mais il y a cette jonction entre la tête et le corps n'est pas visible par l'homme. Elle est visible par celui qui connaît le Seigneur Jésus pour son sauveur. Il reçoit en lui-même justement cette nourriture, mais aussi tous les soins particuliers qu'il faut donner à un membre, comme un corps humain le fait. Il sent qu'il a un membre qui ne fonctionne pas bien, il va en prendre soin pour le guérir.
Oui, la tête va tout de suite prendre une décision pour le bien de ce membre précis à ce moment-là, pour le protéger, pour le ménager, pour le soigner. Et on voit comment le Seigneur, donc, il nourrit son assemblée, on l'a dit, par la parole de Dieu. Mais aussi, la parole de Dieu, elle est nécessaire, dans un sens. Elle répond aux besoins, on va dire, fondamentaux de notre âme. Mais plus encore, par la parole, même, il peut nous chérir. Il nous fait des révélations qui nous donnent pas seulement de la consolation, par exemple, mais une joie surabondante.
Comme par exemple, d'avoir cette espérance qu'il va nous appeler à sa rencontre et qu'il y aura justement à ce moment-là cette réalité dans le ciel où la tête et le corps seront unis ensemble. C'est déjà maintenant par la foi une existence réelle, mais alors ce sera vraiment là, nous le verrons par la vue que nous aurons dans le ciel.
En effet, cette espérance vivante est quelque chose que nous chérissons dans notre cœur, la pensée d'être bientôt dans la présence du Seigneur pour toujours. Quel bonheur! Il y a bien d'autres promesses et bien d'autres choses encore qui nous sont données dans la parole, à nous qui sommes membres du corps de Christ, qui ont bien au-delà du simple besoin que nous avons, parce qu'il nous enrichit de toutes sortes de bénédictions. Et le Seigneur non seulement nous enrichit et donc nous nourrit et nous chérit par sa parole, par exemple, mais aussi par les autres, au travers des autres membres du corps, en donnant à chacun, à chacune, des dons spirituels. Et les dons spirituels sont donnés de la part du Seigneur, il est la tête, donc c'est lui qui décide, dans sa sagesse et dans son autorité, sa souveraineté, qui reçoit quel don dans le corps. Eh bien, c'est le Seigneur qui décide. Il ne décide pas de manière aléatoire. Il décide pour nourrir son assemblée. Il décide pour chérir son assemblée. Et cette distribution de dons spirituels, eh bien, c'est pour le bien du corps tout entier. Qu'est-ce que le Seigneur donne donc comme don spirituel à son corps, à l'assemblée? Et dans quel but?
Alors nous avons dans l'Épître aux Éphésiens, de nouveau, au chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 11. Lui, donc le Seigneur Jésus, a donné, voilà, le don a donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà donc ces dons qui sont déjà nombreux et qui travaillent pour tout le corps en entier. Même si on a souvent une vue très localisée, ceux qui ont reçu ce don travaillent pour le corps tout entier. Alors il y a le but, il y a ce don-là, mais il y a le but. Et on suit, on continue la lecture au verset 12, et nous allons avoir toute une série de points qui définissent ce but. En vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ.
Ces expressions nous dépassent, parce que, en fin de compte, elles se réfèrent à la personne du Seigneur Jésus et à l'effet que la connaissance de Christ peut avoir dans nos cœurs par l'Esprit. Ça nous élève dans la connaissance et l'excellence de la connaissance de Christ dans une mesure que nous ne pouvons pas imaginer.
Et c'est là qu'on se rend compte que nous avons toujours à apprendre, toujours à recevoir cette nourriture, jour après jour. On ne peut pas se dire à un certain moment, « Bon, ça va, j'ai compris, je n'en ai plus besoin », comme un corps a besoin de se nourrir d'une façon continue.
Ce qui est beau, c'est que tous ces dons, le Seigneur a donné les uns, même les personnes, les rachetés sont des dons les uns pour les autres dans le corps. Le Seigneur a donné les uns pour apôtres, pour prophètes, pour quoi d'autre, pour évangélistes, pour pasteurs et docteurs. Et tous ces dons spirituels, c'est pour parler de Christ, sous différentes approches, sous différentes facettes. Un pasteur va parler de Christ d'une certaine façon, un prophète d'une autre, mais tout ça va s'accumuler, s'ajouter ensemble pour nous faire voir Christ toujours mieux sous différents angles. Et la connaissance de Christ par l'Esprit, eh bien, va augmenter concrètement l'amour et le perfectionnement des saints, comme nous l'avons lu. Voilà comment le Seigneur, en tant que tête, a cette sagesse et cette omniscience pour décider qui fait quoi et à quel moment. Il faut se soumettre à la tête en tant que membre pour véritablement être utile et heureux dans son propre service.
Et on voit donc que ce n'est pas le membre qui décide lui-même de ce qu'il va apporter, ni de cette fonction qu'il possède. C'est bien la tête qui va lui donner l'énergie nécessaire, les forces nécessaires, qui va lui apporter cette nourriture spirituelle pour justement faire grandir ce corps, le construire, l'édifier, lui donner de la croissance en connaissance justement de sa personne lui-même, de la personne de Jésus-Christ.
Ce qui est beau aussi, c'est que l'assemblée est souvent appelée l'assemblée de Dieu dans la parole. Et si nous revenons au passage d'Éphésiens chapitre 1, il est dit, je relis, verset 22, « Et Dieu l'a donné pour être chef sur toute chose à l'assemblée qui est son corps. » Donc, Dieu a donné Jésus-Christ pour être chef sur toute chose à l'Assemblée. Avoir Jésus-Christ comme tête du corps, nous qui sommes les membres, C'est un don de la part de Dieu. Et nous savons que Dieu donne toujours ce qu'il y a de plus excellent, et rien de moins que son propre Fils, son bien-aimé. Nous pouvons un peu nous pencher sur cette expression. Il est le chef ou la tête sur toute chose à l'assemblée.
Toute chose. Cela, c'est une expression qui va très loin parce que on peut, dans l'assemblée, avoir beaucoup de besoins, parler, examiner les choses, ressentir beaucoup de choses. Mais la pensée du Seigneur Jésus va plus loin encore que cela. Ce n'est pas ce qui peut nous préoccuper dans l'assemblée, mais c'est tout ce que l'assemblée a besoin. C'est à l'assemblée qu'il apporte, vu comme un corps tout entier.
Donc le Seigneur a été donné pour être tête sur toute chose à l'assemblée. Ça veut dire que si ça concerne son assemblée, ça le concerne lui. Il n'y a rien dans l'assemblée au nom du Seigneur qui doit lui échapper. Et le Seigneur est chef sur toute chose à l'assemblée. C'est lui qui apporte toute chose à l'assemblée. C'est-à-dire que l'assemblée n'a rien à recevoir de qui que ce soit d'autre que de Christ lui-même qui est la tête. C'est lui qui est chef ou tête sur toute chose à l'assemblée. On pourrait dire en direction de l'assemblée.
Et donc, en effet, l'Assemblée n'a pas besoin, sur la terre, de regarder ce qui se passe autour d'elle pour essayer de posséder quelque chose ou de recevoir de ce monde quelque chose. C'est la tête, c'est le chef qui va lui apporter tout ce dont elle a besoin.
Il faut bien comprendre la toute suffisance de Christ à l'assemblée. Toute la richesse de l'assemblée, elle est en Christ et pas ailleurs et pas à côté, pas même dans ses membres. La richesse, elle est dans la tête et ce qui vient de la tête. Et toutes choses, bien, ce sont toutes choses qui concourent au perfectionnement des saints pour l'édification de son corps en amour. Ce sont ces choses-là. C'est ce qui doit être transmis de membre en membre. Alors, on a parlé tout à l'heure des dons spirituels, et chaque membre a reçu, dans sa mesure, selon la sagesse de la tête, une mesure des choses à accomplir pour le chef. Puis certaines personnes, parfois, se demandent ou ne trouvent pas exactement ou rapidement, quel est leur don spirituel. Mais il est dit aussi que nous sommes des jointures. Et cette pensée de jointure, elle est très belle, parce que, on pourrait dire, une jointure n'a pas une fonction active, mais elle a une fonction de faciliter la transmission. Nous sommes tous des jointures. Nous sommes unis les uns aux autres. Nous sommes chacun unis à la tête, et unis les uns aux autres. Et si je reçois la grâce de la part du Seigneur, eh bien, je peux tout simplement agir en tant que jointure pour faire passer cette grâce plus loin. Elle m'est arrivée à moi, eh bien, je ne fais pas barrage, je fais jointure. Je la transmets à celui qui suit ou à celui qui est juste à côté de moi, et ainsi de suite. Et que chacun le fasse, et alors le corps composé de tous les membres sera rempli de cette grâce qui vient de la tête.
Et donc ça montre aussi l'humilité de chacun, parce que nous sommes tous nécessaires, nous avons tous une fonction, mais de nouveau ce n'est pas par nos propres moyens, ce n'est pas par nos propres capacités que l'on réalise.
Ils sont appelés dons de grâce, dons de l'esprit.
Et les apôtres eux-mêmes, lorsqu'ils écrivent la parole de Dieu, conduits par le Saint-Esprit, apportent dans leur salutation d'ouverture des épîtres, souvent cette expression « esclave de Jésus-Christ ». Alors que l'apôtre Paul avait reçu une part merveilleuse quand on voit toute la révélation, il le dit lui-même dans une épître, qu'il a reçu l'administration de ces choses pour apporter aux nations cette révélation de Christ, non seulement comme sauveur, mais comme chef de l'assemblée. Ce qui avait été caché pendant tout le temps qui courait jusque-là et qui était révélé maintenant aux membres de l'assemblée, qui par cette révélation, par cette connaissance, par cette vie nouvelle qui est en eux, manifeste la gloire de la tête qui est dans le ciel. Mais nous restons au service du Maître.
En effet, l'apôtre Paul, qui avait reçu, on pourrait dire, de multiples dons spirituels, dans une mesure que nous pouvons difficilement imaginer, au point de rédiger par l'Esprit la parole de Dieu pour nous la transmettre. Il avait donc l'Esprit Saint, le don spirituel, le don de grâce, et il a également agi comme jointure pour faire passer ce message de la grâce à tous les autres membres, et pour que chaque membre soit directement lié à la tête, pas pour faire écran, pas pour dire « moi j'ai reçu une révélation, moi j'ai reçu un don, vous devez passer par moi pour en savoir plus ». Non, non, non. Il met chaque membre en relation directement avec la tête, et c'est un grand privilège. Chaque membre du corps a ce bénéfice, ce privilège, cette grâce d'avoir directement accès à la tête. Et en plus, le Seigneur nous utilise l'un l'autre pour nous édifier. Le Seigneur Jésus est donc le chef, ou autrement dit, la tête de l'assemblée. Alors, qu'est-ce que ça implique maintenant de manière concrète?
Avec tout ce que l'on a dit, on peut voir pratiquement le Seigneur à la prééminence.
Il a aussi la toute suffisance. Il a la prééminence, la première place, nous l'avons lu, on peut le relire parce que j'aimerais relire le contexte de Colossiens 1. Pourquoi a-t-il la prééminence? Il est dit, nous allons lire un peu plus tôt dans le chapitre, un peu plus haut, au verset 15, « Lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie, ou principauté, ou autorité. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et lui est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Il est le chef du corps, de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il tienne lui la première place. Car en lui, toute la plénitude s'est plu à habiter. » Alors qui d'autre aurait l'autorité sinon Jésus-Christ, le Fils éternel? Il nous est dit ici, d'abord, il est parlé de son œuvre de grâce, de rédemption, lui qui a tout racheté par son propre sang, sa propre vie donnée en sacrifice, mais aussi il est celui qui est le premier-né de toute la création, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Personne d'autre n'a ce statut, cette position. Et puis, toutes choses subsistent par lui. Donc l'infiniment grand a été créé pour lui, par lui, l'infiniment petit aussi. Pas pour nous. Nous ne sommes pas capables de même imaginez ce que c'est que l'infiniment grand. Nous n'irons jamais jusque-là, nous ne verrons jamais ces choses. Elles n'ont pas été créées pour nous, elles ont été créées pour lui. Et lui, par qui toutes choses et pour qui toutes choses ont été créées, et par qui toutes choses subsistent, ce n'est pas par nous, par aucun d'entre nous, eh bien, c'est lui qui est le chef. Il a toute autorité, il a tout pouvoir. Et cela nous amène donc, comme on l'a déjà dit, à une énorme humilité de notre part. D'une part, qui sommes-nous pour prétendre à quelque place d'autorité que ce soit dans l'Assemblée, puisque la place est prise par celui par qui, pour qui toutes choses ont été créées, qui a donné sa propre vie en sacrifice, par qui toutes choses subsistent, celui qui, comme on l'a lu, chérit, nourrit son assemblée, sans jamais se fatiguer, eh bien, il faut qu'il ait, lui, la première place. Toute la gloire est pour lui. Alors, irions-nous chercher un autre chef parmi nous, ou en constituant un groupe de chrétiens pour prendre l'autorité, comparé à lui? Pas possible.
On voit aussi par toutes ces expressions, cette prééminence du Seigneur Jésus, que donc, dans l'Assemblée, toutes les choses sont liées l'une à l'autre, toutes les parties sont liées l'une à l'autre. Il y a une interdépendance, comme dans un corps humain. Toutes les choses doivent fonctionner ensemble. Il y a un seul chef qui va donner une seule nourriture, qui va donner un même enseignement, qui va donner une même discipline, c'est-à-dire un même fonctionnement de tous les membres. Et tout cela va donner une harmonie remarquable de l'Assemblée, et de nouveau, dans le but de glorifier le Seigneur Jésus. Le monde devrait, à travers l'Assemblée, à travers l'Église, employons le mot, à travers l'Église, voir sa tête qui est glorifiée dans le ciel. Voir que la personne du Seigneur Jésus, que l'on rencontre trop souvent, encore un corps pendu sur une croix, alors que il n'est plus sur la croix, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité et il est dans le ciel.
Toute gloire et toute autorité lui ont été données de la part de Dieu. Alors, nous avons ce privilège d'avoir celui-là même à qui Dieu a donné toute la gloire et toute l'autorité comme chef et comme tête au-dessus de l'Église. Pourquoi irions-nous chercher quelqu'un d'autre? Nous avons reçu ce qu'il y a de plus excellent, celui à qui appartient la gloire au siècle des siècles. Et j'aimerais souligner et répéter cette pensée, parce que ça me paraît vraiment fondamental, le fait qu'il soit la tête du corps tout entier, eh bien, fait que tous les membres sont interdépendants les uns des autres. Les membres ne sont pas isolés les uns des autres, puisque chaque membre est lié à la tête. C'est un grand privilège, une énorme grâce. Chaque membre est lié à la tête. Vu que l'enseignement et que tout vient de la tête, mais nous recevons tous la même chose, le même enseignement. Et donc, il n'est pas question d'avoir des enseignements différents. Alors, il y a un problème. Il y a un problème de communication entre la tête et le membre. Faisons attention à être bien en phase avec la tête, en communion avec la tête chacun, et alors nous serons nécessairement en communion les uns avec les autres.
Et donc là, il y a une responsabilité aussi des membres, justement, de maintenir cette relation avec la tête. Et donc on peut lire ce verset de chapitre 2 de cet épître aux Colossiens, le verset 19. Alors on va lire simplement cette expression, « Ne tenant pas ferme le chef, duquel tout le corps alimenté et bien uni ensemble par des jointures et des liens, croît de l'accroissement de Dieu. » Tenir ferme le chef.
Alors ici, c'est même indiqué au négatif, « Ne pas tenir ferme le chef. » Et on voit que, en fin de compte, si on comprend bien ce passage, si chaque membre tient ferme le chef, alors le corps est bien ajusté ensemble, bien uni, alimenté et bien uni par les jointures et les liens. Mais à partir du moment où, en tant que membre, je ne tiens pas ferme le chef, je ne tiens pas ferme la tête, alors vont survenir des problèmes.
Et donc, ce chapitre nous montre quelques aspects, justement, de ce qui pourrait faire que le chef ne soit pas tenu fermement, c'est-à-dire que cette liaison ne soit pas permanente, soit faible.
Ou interrompue.
Interrompue.
Mmh. Donc il faudrait donc ne pas tenir ferme la tête, ça veut dire que la communication entre la tête et le membre, elle a soit des interférences, ou elle est perdue. Et donc le membre n'agit plus en fonction de la volonté ou de la voix ou la parole de la tête, mais de son propre chef, en suivant d'autres instructions qui peuvent venir de pensées propres ou de pensées d'autres personnes, parfois même d'incrédules.
Et donc, on peut lire ces quatre expressions. Chapitre 2, verset 4. Or, je dis ceci, que personne ne vous séduise par des discours spécieux. Donc voilà une information, voilà une nourriture qui vient de l'extérieur, qui ne vient pas du chef. Le monde, les raisonnements, les philosophies, toutes sortes de choses qui viennent remettre en question non seulement ce que la parole de Dieu nous dit, mais aussi cette relation, cette communication entre la tête et le membre, ou entre le membre et la tête.
Oui, dans ce cas-là, on peut imaginer, en tant que membre, par exemple, j'ai accepté Christ, je suis un véritable croyant, par exemple, mais je me laisse séduire par différentes pensées que j'estime être nécessaires, mais qui ne sont pas de Christ, et je me laisse séduire, au lieu véritablement comprendre la toute suffisance de Christ, qu'en dehors de lui, il n'y a rien de bon pour mon développement spirituel. Mais souvent, nous aimons bien agrémenter l'enseignement biblique. Et là, on voit l'expression peut-être du chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par des vaines déceptions, selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde, et non selon Christ. Voilà. On n'est plus alimenté par Christ, et que personne ne fasse de vous sa proie ne vous dépouille. Donc nous n'avons plus le bénéfice de ce que Dieu nous donne au départ, parce que nous nous sommes laissés séduire par d'autres pensées, par des raisonnements humains, des choses qui sont peut-être logiques pour l'esprit humain, mais qui ne sont pas par la foi.
Donc c'est le deuxième prend-garde, c'est la deuxième cause de ce fait de ne plus tenir ferme. On peut en trouver une troisième dans le verset 16 du même chapitre. Que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, ou à propos d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat, qui sont une ombre des choses à venir. Mais le corps est de Christ. Voilà donc à nouveau un jugement qui vient de l'extérieur pour dire « Mais pourquoi mangez-vous ceci? Pourquoi ne mangez-vous pas cela? Pourquoi n'observez-vous pas ces jours de fête? Pourquoi ne donnez-vous pas d'importance à telle chose que le monde a instituée ?» Et tout ça, ce sont des jugements qui sont posés et qui peuvent influencer justement cette relation, que on perd justement cette expression « mais le corps est du Christ ». Donc, cela semblerait dire que ce corps n'est plus tout à fait du Christ. Il s'est bien installé sur la terre et les hommes ont apporté des formes, ont apporté beaucoup de choses. Et voilà, ça fonctionne bien. Mais il n'y a plus justement cette nourriture qui descend, ce fonctionnement harmonieux du corps vis-à-vis de la tête qui est dans le ciel. Et peut-être la gloire de la tête n'est plus visible à travers le corps.
Exact. Et on peut comprendre aussi que à partir du moment où on n'a plus le lien direct et les directives directement de la part du Seigneur pour les accomplir dans sa dépendance et dans sa communion, on ne sait plus pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait ceci ou pourquoi on ne fait pas cela, ça devient des règles. Et puis après, d'autres peuvent nous demander « Mais pourquoi vous le faites? Pourquoi vous ne le faites pas ?» Et puis, on n'en sait rien. Alors, pourquoi pas le faire? Et donc, alors, on se conforme au monde et on est très sensible au jugement du monde. Et on n'a pas envie d'être différent, peut-être. Voilà un des effets d'avoir perdu le lien direct avec la tête.
Donc on a cette quatrième attention au verset 18 de ce chapitre 2. « Que personne ne vous frustre du prix du combat, faisant sa volonté propre dans l'humilité et dans le culte des anges, s'ingérant dans les choses qu'il n'a pas vues, enflé d'un vain orgueil par les pensées de sa chair. » Alors voilà, il y a le combat, celui qui résiste. Dans les églises qui sont décrites dans Apocalypse 2 et 3, les quatre dernières qui sont présentes aujourd'hui sur la terre, dans ces différents aspects, à chacune il est dit, à celui qui vaincra. Il y a un combat, il y a un adversaire, il faut le vaincre. Et on peut être donc frustré du prix du combat. Ne plus apprécier la victoire du Seigneur Jésus sur la mort, sur l'adversaire, qu'il est allé lier même dans sa forteresse, il est entré dans la mort pour aller le combattre, et il en sort victorieux. Et nous avons à vivre ce combat. Alors voilà, nous pouvons être détaché de ce prix, de cette valeur de la personne du Seigneur Jésus, de son œuvre accomplie à la croix.
Oui, et si on n'est plus en tant que membre lié directement à la tête, avec tout ce que nous avons déjà mentionné, eh bien, probablement, on a arrêté de combattre le bon combat, le combat de la foi. On a arrêté de garder le bon dépôt par l'Esprit Saint. Et alors, eh bien, il faut prendre garde. Il faut prendre garde. Et quand on arrête de combattre de manière spirituelle, hein, puisque la vie du chrétien sur la terre est une vie de combat, eh bien, on s'endort spirituellement, on s'assimile, on se conforme au monde, et pas seulement individuellement, mais collectivement aussi, puisque le fait que Christ est la tête est lié surtout à l'aspect collectif des rachetés, au corps. Eh bien voilà, peut-être qu'ensemble, nous arrêtons de combattre, nous assimilons à la mondanité, et alors, n'ayant pas tenu ferme le chef. Et donc, en ne tenant pas ferme le chef, on ne tient pas ferme non plus l'unité du corps. Et alors, il y a les divisions et il y a la débandade.
Voilà, mais pour terminer ce sujet sur une note plus heureuse et plus glorieuse, on pourrait lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11 et au verset 34, il y a cette doxologie qui est exprimée. On va lire une partie. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier et lui sera rendu? Car de lui, et par lui, et pour lui, sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen.
Amen.
À bientôt pour d'autres sujets bibliques.